Bonjour à toutes et à tous. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Carl Hart, qui nous vient de New York, qui est professeur à l'Université de Columbia. Et on peut considérer, je crois, il me reprendra, que c'est un des acteurs très en vue aux États-Unis des débats sur la guerre à la drogue comme guerre raciale et évidemment sur les impasses du modèle prohibitionniste. Donc de ce point de vue-là, on est évidemment très heureux de l'entendre. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une traduction simultanée et là-dessus, il faut le souligner parce que c'est pas toujours évident, y compris dans cette noble institution. Donc Carl Hart fera une première intervention en anglais, mais avec la traduction. Je propose, pour des commodités de discussion, enchaîner avec le deuxième exposé de Fabrice Olivet, qui sera sur les mêmes thématiques, mais sans trahir sa pensée, qui essaiera de nous expliquer, au fond, en quoi la situation est bloquée en France sur ces questions et de criminalisation, légalisation et sur les processus de discrimination raciale. Donc ces deux exposés vont nous prendre à peu près une heure. Je vous propose à ce moment-là de faire une courte pause et puis on aura une discussion que j'introduirai de façon très très rapide, mais qui nous prendra une bonne heure et demie. Donc je pense que la discussion sera primordiale et tout à fait intéressante. Voilà pour ces quelques mots d'introduction et donc je cède tout de suite la parole au docteur Carl Hart. Merci beaucoup.
Thank you for coming out to hear us speak today. I've been traveling quite a bit, and so as a result, I lost my voice. And they have asked me not to be enthusiastic, so the translation works. It's hard for me not to be enthusiastic, but I will pretend to be. I am a professor, but I will act like my boring ass colleagues. That's not what I usually do, because I wouldn't want to listen to a boring-ass person. But they asked me to not be enthusiastic. And what I'd like to talk to you all about today, I'll spend about a half an hour, and then my colleague Fariz will speak. I will speak about racial discrimination in the war on drugs in the United States. By training, I am a neuropsychopharmacologist. I'm a scientist, and I publish in the scientific literature. But like many people before me, people like James Baldwin, people like Michelle Alexander, people like Angela Davis, people like Martin Luther King and Malcolm X, they all were forced to leave their vocation in order to speak about race and racism in the United States. They would all prefer to have continued their vocation. But since racial discrimination is often ignored in the United States, we who do other things are forced to speak about racial discrimination. I would much rather be in a lab, that's me, many years ago, until I started speaking about racial discrimination, and it has aged me. But I would rather be in the lab. But what I'd like to do today is to share with you all some of the lessons that I have learned over the past few years in my pursuit. One of the lessons that I have learned as a scientist is that we in science, as well as the general population, we have exaggerated the harmful effects of drugs. We have misled the public about the harmful effects of drugs. The public believes that drugs are more harmful than they are. I don't have much time today to talk about all of the exaggerations that we have had in the scientific literature. I will just briefly show you some of the papers that I published, and so you can go and check it out in the scientific literature if you like. This is a paper that I published a few years ago on how we have exaggerated the harmful effects of methamphetamine. And this is a paper that I published this year on how we have exaggerated the harmful effects of cannabis. And this is a paper that I just published last week with some other colleagues around the world about how we have exaggerated the harmful effects of damn near every drug. And this was published last week in The Lancet. Today, for my purposes, I like to talk about cocaine, because as it relates to racial discrimination. Now, in the United States, we have told, initially in the 1980s, we told the population that this new drug called crack cocaine was more dangerous than powder cocaine. On the slide here, I have a picture. On the left is a picture of powder cocaine, and on the right is a picture of crack cocaine. Now, focus your attention back to the left. The circle, the red circle, is the only difference between these two chemicals. That red circle is called the hydrochloride group. It's a salt. It doesn't have any biological or pharmacological action. The only reason that it's there is so you can't smoke the compound. You can't burn it. If you want to smoke it and turn it into crack, you have to remove that hydrochloride portion. And when you remove that hydrochloride portion, it's called crack cocaine. But the two drugs produce the same identical effects. It's true that when you smoke crack cocaine, it produces a more intense effect than when you snort powder cocaine. Now, but it's also true that when you shoot intravenously powder cocaine dissolved in water, it produces the same intense effects as smoking crack cocaine. They are the same drug. But that's not what we have told the population, and that's not what we told the population earlier in the 1980s. We now, most people know this, but many people still don't know this. So if you would come back with me to the 1980s in the United States, at that time in our history, we were very concerned about crack cocaine. And crack cocaine use was associated with black Americans. Even though black Americans did not smoke crack cocaine more than our white counterparts. But in the media showed that black people smoked crack cocaine more. But it wasn't true. When you looked at all of the epidemiological data, it showed that there are far more white people in the country, so far more white people were smoking crack cocaine. But that's not the impression that the American people had got. And so as a result, crack cocaine, along with its users, black Americans, were vilified. And as a result of this vilification, we passed in the United States laws that punished crack cocaine violations 100 times more harshly than violations of powder cocaine. So that meant that people who had small amounts of crack cocaine were required to go to jail for a mandatory minimum sentence of 5 years. In order to go to jail for the same time for the amount of crack, for powder cocaine, the person had to have 100 times more powder cocaine. So you can see in the law said that crack cocaine was 100 times more dangerous than powder cocaine. That's what the law said, even though the chemicals, they're the same. Now, when you look at who went to jail for crack cocaine for that mandatory sentence of 5 years, here are some data. This shows the percentage of black people who went to jail under this law, and the percentage of Hispanics and the percentage of whites here. You can see that more than 80% of the people who went to jail for this law and violating this law were black, even though they didn't use crack at rates higher than their white counterparts. Now, as a result of this type of data, people in the United States became concerned. People were concerned. Even white Americans were concerned. And so the officials in the United States commissioned studies. And when the studies came in, the people who determined the punishment for crimes in the United States decided that the law should be done away with. They said that the law was not fair and we should get rid of the law. Now, this was in 1994, and in 1995, President Bill Clinton rejected that recommendation. President Bill Clinton said that, no, we will keep the law the same. And he said, for his reason was this. He said that we want to send a constant message to our children that drugs are illegal, drugs are dangerous. Drugs may cost you your life, and the penalties for dealing drugs are severe. That's what he said. So he rejected the recommendations. And so the law stayed the same. More black people were arrested under the law. Now, that was in 1995. That was 1995. Fast forward to 2007. Along comes presidential candidate Barack Obama. He was running for president, and he said about that law, Barack Obama said that judges think that that law was wrong. He said that Republicans think that law was wrong. He said that Democrats think that law was wrong. And yet the law was approved by Republican and Democratic presidents because no one had been willing to brave the politics and make it right. And he said that when he became president, that would end. He said he would end that law. So the question before you today is, do you think Barack Obama ended the law? We? Not no, but hell no. No, the law was changed the law was now changed to where crack cocaine was punished 18 times more harshly than powder cocaine. So the law was changed slightly, but it still is not appropriate and it still is not consistent with the science. The science says the law should be, the two drugs should be treated the same. So I have a quote from Malcolm X that speaks posthumously to this issue. Malcolm X said that, and I agree with Brother Malcolm X, when he said, if you stick a knife in my back, if you stick a 9-inch knife in my back and pull it out 6 inches, there is no progress. That's what happened in this case. There's no progress. And then, when you consider this fact, even today, right now, this very hour, right now, 80% of the people who are currently being arrested under this law are black, even today. Now, that's not the only drug law or place where black people are being racially discriminated as it comes to drug laws. When we think about something like marijuana, even marijuana, on the left are the numbers of black people who are arrested for marijuana, and on the white, on the right are the number of white people arrested for marijuana. As you can see, even today in the United States, black people are 4 times more likely to be arrested for marijuana, even though they don't smoke the drug at rates higher than their white counterparts. So even with marijuana, the same sort of situation exists. Now, I want to be clear that this is consistent with our history in the United States of racial discrimination, particularly as it comes to drug laws. We have always been racist in our prosecution of drug laws or our enforcement of drug laws. If you will, come back with me to 1914. This is an article that was published in the New York Times on February the 8th, 1914. It's written by, at the time, a prominent physician who was arguing that the South was experiencing epidemic rates of cocaine use by black people. The article is entitled, "Negro Cocaine Fiends Are a New Southern Menace." In the article, the author makes three arguments. The first argument is that cocaine, when black people snorted cocaine, you could not shoot them and stop them with 32 caliber weapon bullets. This is a size of gun. So you can shoot your gun six times in the black person's heart and they would be unaffected because of the cocaine. That's ridiculous, right? You guys find, I hope you find that ridiculous. Because of that argument, police forces in the southern portions of the United States, the police forces moved away to a bigger caliber of weapon. They changed their weapon to one that was of a heavy caliber in order to stop these black people on cocaine. That's what's written, that happened as a result of these kinds of articles. Another argument that this person made was that cocaine made black people more homicidal, more murderous. That's two. And three, this person argued that black people became better marksmen. They were better at shooting weapons when they took cocaine. These are the kind of arguments that have influenced our drug policy in the United States from our inception. This is a part of our American history. Now, I have just two more recent examples that I want to show. This is an example of a young woman. I won't play the video for the interest of time. Her name is Sandra Blaine, or was Sandra Blaine. She was stopped in her car by this police officer who became upset with her because she was asking him questions. He pulled her out of her car and he arrested her. He said he suspected that she was smoking marijuana. 2 days later, she was found dead in her cell. And the prison officials, the police, suggested that she had taken large doses of marijuana and killed herself. They showed me the blood levels of marijuana found in her system. They were about the equivalent of placebo levels. They were really low. So that just does not fit with the science or the evidence. And another example is a young man who was killed in Chicago, October 2014. The police shot this young man 14 times, 16 times. And they said that he was on a drug, PCP. And they said that the drug made him act crazy. And he lunged at the police. And so that justified the killing. But then, 1 year later, the videotape was released of his killing. And so I'll let you see the videotape. And you tell me what you think. This is the young man walking down the street, and these are the police, and he's just walking away from the police. And the police come out, And they shoot him. And he's on the ground, and you'll see that they continue to shoot him. And he's on the ground, and he was shot. But the police said, before the video was released, they said that he was on PCP, and he lunged at them. And the drug made him crazy. And he had a knife. That's exactly right. Thank you. Okay, so I will say, I think the quote of James Baldwin is quite appropriate for me at this point. When James Baldwin said that to be Negro in this country, being the U.S., and to be relatively conscious is to be in a rage almost all the time. When you see this type of injustice, and the society allows this injustice to occur and to continue, it's to be enraged all the time. And one has to find something to do with their rage. Otherwise, it will destroy you. Now, I should say that this sort of situation is not limited to the United States. I have had the fortune, as a result of the release of my book, of traveling around the globe and looking at a variety of societies. Drug policy, or the enforcement of drug policy, is used as a tool to further marginalize those people on the margins of society. Sometimes it plays out in racial terms, sometimes it plays out in ethnic terms, sometimes it plays out in religious terms, sometimes it plays out in class terms. I wrote several articles on how this plays out in Brazil. The same situation occurs in Brazil with their African population. Some may know that in Brazil, the African population is about 50%. But yet, the black people in Brazil make up less than 5% of the middle class. They make up less than 5% of the country's representatives. They make up less than 5% of the country's university professors and those sorts of people. And they are poorly educated. And so drug policy is being used in similar ways in Brazil as it's being used in the United States to perpetuate racial discrimination. And I will like to end by simply saying that here are some things that we can do as a society, as a global community. We can call out the discrimination that occurs, and we can also call out and embarrass the people who engage in this behavior. If we don't, the behavior will continue. And sometimes this might mean you looking at yourself. And we can work to change the legal status of drugs such that drug policy can no longer be used as a tool to perpetuate racial discrimination. I started off by saying that we have exaggerated the harmful effects of drugs. So much of the drug policies, much of the foundation on which drug policy is based, is flawed. And if that's the case, it requires a society to re-examine what they're doing with their drug policy. And that hasn't been required of societies for a long time. And so I'm here in part to help you to get the conversation started in your communities. And finally, whenever you make changes, one must be constantly vigilant. One must constantly weigh the risk-benefit ratio. Do the changes cause more harms than positive effects? This is an equation that one needs to evaluate constantly. And we don't usually do this with our drug policy. This is why drug policy has failed so many people around the globe. Now, given that the situation is what it is as I laid it out, I'd like to leave you with the words of one of our former politicians in the United States when she said that If the society today allows wrongs to go unchallenged, the impression is created that those wrongs have the approval of the majority. And that's what's happening with our drug policy. On that note, I'd like to thank you for your time.
Eh bien, on va essayer de continuer cet exposé en essayant de transposer tout ce que l'ami Karl a dit sur la situation française. Et comme l'a précisé Michel tout à l'heure, je pense qu'en France, on a affaire à un double tabou, avec une grosse difficulté à exprimer les choses comme il l'a fait, c'est-à-dire en termes de race et de communauté. Vous savez que le terme communautaire est extrêmement péjoratif en général, et surtout depuis quelque temps, il est utilisé pour discriminer et pour invalider une proposition. Quand on les dit communautaire en général, c'est mauvais signe. Et essayer de vous montrer aussi que sur la question des drogues, le tabou existe de la même façon, et que cette question de l'utilisation de la guerre à la drogue comme un outil de contrôle racial est donc doublement tabou. Donc, voilà, guerre à la drogue comme outil de contrôle des minorités ethniques. On ne peut pas non plus s'abstraire du contexte actuel post-attentat, évidemment, qui a fortement porter ces questions à un niveau d'intensité extrême, puisque en France, un certain nombre de questions complètement raciales, maintenant, sont obturées par les affaires religieuses, puisque l'islam a occupé l'espace qui est utilisé aux États-Unis pour défendre des questions purement de discrimination raciste, axées sur la couleur de peau. La difficulté qu'on a en France de parler de ces questions-là fait que ça crée un vide occupé par l'islam qui se pose comme défenseur communautaire. Et ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de gens, par exemple de couleur noire, se convertissent à l'islam aujourd'hui, parce que c'est une façon pour eux de pouvoir résister à ce racisme et se sentir faire partie d'une communauté. Ce qui est très difficile à exposer dans le contexte français. Oui, je voulais parler très rapidement du Sanglot de l'homme blanc, qui est un livre de Pascal Bruckner qui a été édité en 72 et qui à l'époque était extrêmement vif et éclairant, puisque il s'agissait de combattre la repentance. La repentance, c'est quelque chose qu'utilise la majorité blanche, puisqu'il faut utiliser les mots pour ceux qui sont pour placer les gens du tiers-monde dans une situation de victime, et jamais comme acteur historique. Les conséquences de ce type de discours, c'est le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy quand il dit que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. À force d'être repentant, à force d'avoir une majorité repentante, on en arrive à considérer que les gens de couleur sont toujours incapables d'agir par eux-mêmes. Et 15 ans plus tard, on en est à comprendre, c'est excuser. Donc, ce qu'a dit Manuel Valls lors de ses vœux à la presse en 2016. Et cette culture de l'excuse empêche absolument de pouvoir parler de tout ça. Des analyses qui pensent que la colonisation est forcément quelque chose pour excuser les attentats, et les analystes qui pensent que la couleur de peau doit être utilisée pour comprendre les choses sont invalidés depuis ce contexte post-attentat qui a complètement traumatisé la société. Au point qu'on en arrive à quelqu'un comme Gilles Kepel, qui est un spécialiste de l'islam, qui nous parle des charlatans des post-colonial studies, alors que les post-colonial studies sont une spécialité historique qui est parfaitement reconnue dans le monde entier. Donc, les intéressés apprécieront ce genre de remarques. Alors, la drogue comme outil de contention des minorités ethniques en France. En France, on a un certain nombre de points communs avec les États-Unis. Comme aux États-Unis, nous sommes nés d'une république avec une importante minorité de couleur indigène. Comme aux États-Unis, cette minorité de couleur indigène est née de l'esclavage et du colonialisme, en grande partie. Et comme aux États-Unis, elle est confrontée depuis 1970 à une consommation de substances illicites de masse. Or, l'idée et le propos aujourd'hui... Est-ce que ça marche, ça ? Non.
Si, ça marche.
Oui. Ça marche ? T'es sûr ?
Oui.
Bon, ok. Donc, cette fracture croissante entre la République et les populations françaises, originaires des colonies africaines, Maghreb inclus, dépasse largement des politiques de drogue, mais, comme aux États-Unis, dans une complète indifférence de l'opinion publique, le racisme d'État des forces de police, il faut appeler un chat, et de certaines catégories de l'appareil judiciaire, a pu se dissimuler sous couvert de la lutte contre la drogue. Sans qu'aucune voix ne s'élève pour le dénoncer, puisque, effectivement, la lutte contre la drogue, le fléau de la drogue, comme aux États-Unis, comme en a parlé Karl, vient obturer toute possibilité de relativiser tout ça et de réfléchir aux causes. Aujourd'hui, la place considérable prise par le trafic de narcotiques dans l'économie parallèle des banlieues nous oblige à revoir nos politiques de drogue, au risque de voir la France basculer dans un scénario à la mexicaine qui contamine progressivement les élus locaux et les forces de police. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à tout ce qui se passe à Marseille et toutes les polémiques qui existent aussi à l'heure actuelle sur nos banlieues, y compris avec cette question de l'islam, encore une fois, qui vient prendre la place de ce qu'était l'usage de drogue il y a quelques années. Bon, je vais aller un petit peu plus vite. Tout d'abord, un mot sur le mythe républicain. C'est très important de comprendre ça pour voir comment on a des difficultés à parler de toutes ces questions en France. La France est fortement attachée au mythe de l'égalité républicaine, matérialisé dans la Déclaration des droits de l'homme, ça, il n'y a pas de problème, qui ne connaît théoriquement ni les races ni les religions. C'est dans la Constitution, c'est le préambule de la Constitution. Ce principe a permis d'ailleurs au gouvernement révolutionnaire de 94, bon, j'insiste, c'est la période de la terreur, c'est la période qui est le plus décriée en général quand on parle de la révolution, c'est les gens qu'on traite de terroristes et dont on pense que ils sont en gros les inventeurs du goulag, si je vais très très vite. Donc c'est ce principe qui a permis à nous, la France, le premier État au monde, d'abolir l'esclavage, une mesure qui sera abrogé très vite, enfin qui sera annulé très vite par Napoléon. Il faudra encore attendre 60 ans pour qu'elle soit rétablie en 48 par le gouvernement républicain. Je vais faire une introduction rapide pour bien comprendre, pour bien poser les problèmes qui nous empêchent, nous en France, de poser ces questions sur le terrain des races, comme elles peuvent l'être très facilement aux États-Unis, même s'ils ont une histoire beaucoup plus dramatique que la nôtre en termes de race d'affrontement de race et de racisme évident, on ne peut pas s'abstraire, nous, en France, de comprendre pourquoi notre système républicain, alors aujourd'hui, est en panne et du coup nous empêche de comprendre les choses beaucoup plus facilement que ça se passe aux États-Unis. Un petit mot sur les impasses de cet universalisme donc, qui est mis en place à la Révolution. L'expansion coloniale où la majorité des peuples sont soumis par la colonisation, a fait que les indigènes, donc il y a une politique de l'indigénat, je ne vais pas être long là-dessus, qui empêche tous ces peuples, vous le savez, d'avoir la nationalité française. Donc on a déjà une contradiction évidente entre cette théorie de l'assimilation portée par la Révolution et toute l'expansion coloniale, qui commence sous la République, donc avec des gens qui se réclamaient des idéaux de la Révolution. En même temps, il y a quelques victoires. Cette assimilation française, elle n'est pas que négative. Il y a un certain nombre de choses qui sont à mettre à l'actif du colonialisme, y compris du colonialisme, en termes de lutte contre le racisme. Et notamment, ce qui est important de connaître, c'est toute l'histoire de ce qu'on appelle les « évolués », entre guillemets, qui permet par exemple à un certain nombre de leaders indépendantistes d'accéder à la connaissance en s'inspirant de la Révolution française. C'est exactement le cas d'Ho Chi Minh, qui a été éduqué dans notre système de méritocratie coloniale. C'est le cas de Senghor, qui est agrégé de grammaire à l'école normale. Et il y a toute une liste de fêtes en 1830, en 1848, en 1870, qui sont mettre à l'actif de l'assimilation, ce terme qui est extrêmement décrié aujourd'hui. À l'époque, un peu partout dans le monde, les hommes de couleur, les Noirs, les indigènes étaient astreints à la non-citoyenneté et très souvent encore à l'esclavage. En France, on avait déjà des citoyens. Donc c'est le cas des hommes de couleur aux Antilles à partir de 1830, évidemment des esclaves à partir de 1848 et des Juifs d'Afrique du Nord à partir de 1870. Ensuite, en métropole, plusieurs vagues d'immigration depuis la fin du XIXe siècle, des Juifs d'Europe de l'Est, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Kabyles, des Portugais, et plus récemment, les Français d'Afrique du Nord, rapatriés d'Algérie, se sont parfaitement assimilés à la société française, dans une politique d'assimilation qui a fonctionné jusque très récemment. Tous ces groupes ethniques se sont fondus successivement dans la société sans constituer de véritables communautés au sens anglo-saxon du terme. Or, c'est cette assimilation qui crée le non-dit de la question raciale, puisqu'elle est très prégnante dans l'histoire de France. Je cite toujours l'exemple du général Dumas, qui est le père de l'écrivain le plus lu au monde, l'écrivain français le plus lu au monde, et le fait que l'Assemblée nationale possédait à la fin du XIXe siècle plusieurs députés noirs, et même un ministre des colonies en 1917, Blaise Diagne. Tout ça pour vous dire que la théorie des races est quelque chose qui, finalement, a occupé l'espace français et le débat français pendant très longtemps, y compris à l'extrême droite, puisque un des théoriciens du racisme extrême, le comte Edgar de Gobineau, est français. L'antisémitisme aussi est une cause qui occupe les polémiques jusqu'à causer une quasi-guerre civile pendant l'affaire Dreyfus entre 1848 et 1904. Et donc tout cela nous a conduit à bâtir ce fameux corpus juridique contraignant qui interdit de faire allusion publiquement à la couleur de la peau, à la religion et encore moins à la race, qui est considéré aujourd'hui, quand on en parle, notamment aux gens de gauche et aux gens progressistes, comme un gros mot, et voire une aberration quasi médiévale. Tout cela, donc, je le disais, a fonctionné jusqu'à l'arrivée des fameuses minorités postcoloniales. Et là, on arrive à ce fameux mot de postcolonialisme qui est contesté par un certain nombre de gens aujourd'hui, mais qui est à rattacher à cette histoire de l'expansion coloniale française, y compris dans ses contradictions entre l'universalisme et la réalisation de cette expansion coloniale. Donc le système a globalement fonctionné jusqu'à la fin des années 60, jusqu'à l'arrivée en France de nombreux travailleurs issus des anciennes colonies qui ont fait souche sur le territoire et forment aujourd'hui une part très importante de la population, mais impossible officiellement à dénombrer du fait de l'absence de statistiques ethniques. Les enfants de l'immigration sont des Français à part entière, car la France applique le droit du sol, en cohérence avec son idéologie, mais ils ont tous souffert du racisme, de l'exclusion sociale et du confinement dans des banlieues éloignées des centres, véritables de ghettos, tout cela en contradiction totale avec cette fameuse lettre de l'universalisme. Et nous sommes donc bien dans ce French paradox qui est, on y pense toujours, on en parle tout le temps, et c'est d'autant plus vrai en ce moment, mais il faut éviter de l'exprimer publiquement dans les statistiques. Tout cela nous conduit à une espèce de schizophrénie à la française, à un double mouvement inversé, la théorie universaliste d'un côté contre des pratiques discriminatoires de l'autre, qui ont débouché sur l'un des paradoxes français les plus difficiles à résoudre. Nous savons tous que les Noirs et les Arabes français sont les plus nombreux en prison, au chômage, allocataires des services sociaux, insérés comme consommateurs et surtout pourvoyeurs dans les réseaux de trafic de drogue, et nous sommes dans l'incapacité légale de prouver tout cela statistiquement. Cette schizophrénie ne profite évidemment qu'à l'extrême droite, héritier des traditions fascistes des années 30, qui surfe sur l'hypocrisie évidente du discours égalitariste officiel et dénonce les dangers de l'immigration pour l'identité française. Pour lutter contre ça aux États-Unis, ils ont une arme classique qui est le lobby communautaire. Le fait que les communautés, quand elles souffrent de ces discriminations-là, peuvent s'organiser en véritable contre-pouvoir parce que elles sont reconnues en tant que telles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des communautés liées par une identité objective. Donc les lois républicaines qui incitent aux européens ethniques d'être comptabilisées, de revendiquer une spécificité ou même de comptabiliser les discriminations dont elles sont victimes, empêchent toute communauté, à l'exception notable de la communauté juive pour des raisons historiques qu'on connaît bien, de se constituer en groupe d'intérêt, en réseau agissant, a fortiori en lobby. Cette situation explique en partie la superposition terme à terme de l'islam, je le disais tout à l'heure, sur les questions du racisme anti-arabe. On parle même de musulmans d'apparence, je suppose que vous avez déjà entendu le terme, et d'un autre côté, d'islamophobie, pour approuver ou dénoncer les racismes envers les Maghrébins. Donc, le travail dont a parlé Karl de Michel Alexander sur le New Jim Crow, c'est le nom de son œuvre majeure, est tout simplement impossible à reproduire en France pour des raisons juridiques. Ce qui nous emmène à parler du péché originel des années 80, et donc que je vais conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes liés à l'usage de drogue en France, de mon point de vue, ont commencé par l'épidémie d'héroïne dans les années 80, un sujet qui est totalement vierge et même hautement suspect, puisque cette affaire n'est pas revendiquée ni par les gens concernés, c'est-à-dire les gens qui représentent à l'heure actuelle nos minorités ethniques, ni évidemment par l'État qui en est globalement le responsable. Donc, pas de statistiques ethniques. On va voir qu'il y a toute une génération qui a été sacrifiée dans les années 90 pendant cette épidémie d'héroïne. Et ensuite, on va parler de l'héroïne comme objet transitionnel entre deux époques. Donc, les statistiques ethniques d'abord. Michel Alexander, lorsqu'on l'a interrogé dans un Sud Journal sur l'absence des statistiques ethniques en France, nous dit quelque chose qui est tout à fait éclairant. Ces lois sont inadmissibles, tout à fait choquantes. Elles ne sont pas autre chose qu'une conspiration du silence, un déni national des inégalités raciales. Et il est étonnant qu'un pays comme la France, avec son passé esclavagiste, refuse d'étudier ce qui pénalise les groupes ethniques minoritaires sur le plan politique, législatif ou institutionnel. Il est possible que les Français aiment pouvoir se dire qu'ils n'ont aucun problème de discrimination. Effectivement, on peut se poser la question. Alors, on en arrive au sujet effectif de la question des drogues et la question des minorités raciales. Quelle proportion de minorités visibles sont consommateurs ou trafiquants ? D'abord, la question de la proportion des gens arrêtés ou condamnés pour infraction à la législation des stupes. Évidemment, pas de statistiques là-dessus, contrairement à ce qu'il se passe aux États-Unis ou même en Angleterre. On a quelques indices avec l'étude de Fabien Jobard et René Lévy, qui, sur des contrôles de police au faciès à la gare du Nord, donc une étude financée par l'Open Society Institute, on y reviendra peut-être dans le débat sur le rôle joué par le milliardaire Soros sur toutes ces questions-là. Alors, ils n'ont pas isolé l'item drogue, et c'est bien dommage, parce qu'à mon avis, on aurait eu des surprises éclairantes sur le nombre de fois où l'usage de drogue est utilisé comme prétexte pour pouvoir fouiller les gens, notamment en regardant dans leur portefeuille s'ils ne cachent pas un Kalachnikov, par exemple. Donc, résultat, les Noirs sont contrôlés 11 fois et demi plus que les Blancs, les Arabes 7 fois. Pour une fois, les Arabes sont derrière. Et c'est à comparer avec une étude aux États-Unis faite par l'organisme Release, où les Noirs sont arrêtés 6 fois plus que les Blancs. Mais là, en étant ciblés sur les questions de drogue. Tout cela nous conduit à parler, comme je disais tout à l'heure, de l'histoire de l'épidémie de sida parmi les usagers de drogue dans les années 80, qui, à mon sens, et ça, c'est les conclusions auxquelles je suis arrivé dans le cadre d'un travail qu'on effectue en ce moment et qu'on est en train de terminer sur la diffusion sociale de l'héroïne entre les années 70 et les années 2000, on peut parler d'une génération sacrifiée en parlant de cette part de population issue des quartiers qui a vécu cette épidémie d'héroïne. Alexandre Marchand, qui est un historien qui est spécialisé sur la question des drogues, nous dit « Cette épidémie fut paradoxalement à la fois médiatisée et tue ». Et Sandrine Musso, qui a fait une thèse sur le sida et les minorités postcoloniales, nous dit ceci. Les témoignages dessinent une flambée très intense, mais très courte, dont les effets sont importants, overdose, toxicomanie, excessivement aliénante, multiplication des embrouilles et des agressions. La réaction est rapide. Les petits frères, on verra pourquoi, prendront vite leur distance. 10-15 ans plus tard, quand elle enquête, les effets du sida se sont fait sentir et c'est une génération entière qui semble être décimée. Selon elle, une génération précise et désignée pour laquelle la maladie du sida est associée au thème de poudre, de violence, de délinquance, de prison. Il s'agit de celle des jeunes qui avaient 20 ans dans les années 80, c'est-à-dire la génération des années 60. Cette génération sacrifiée, elle est sacrifiée en vertu d'un décret, il faut le comprendre et il faut le retenir, le décret de 72 qui réglemente le commerce des seringues et qui est en fait le décret qui légalise littéralement l'épidémie de sida parmi les usagers de drogue, puisque on n'attrape pas le sida dans un paquet d'héroïne, on l'attrape parce qu'une politique vous empêche d'utiliser des seringues stériles et en plus une politique prise par l'État qui est censée vous protéger. Alors, il y a l'hypothèse d'une surreprésentation des morts du sida et des overdoses chez les enfants d'immigrés, les enfants des immigrés qui sont venus reconstruire la France, la seconde génération des jeunes adultes des années 80. C'est la génération des révoltes aussi, c'est important de le savoir, puisque le parallèle peut être fait avec ce que dit Michel Alexander de la guerre à la drogue portée par Nixon dans les années 70. C'est la génération de la révolte des Minguettes à Vénissieux, de la révolte des Harkis, de la marche pour l'égalité, surtout, dite marche des beurs. Et dans les souvenirs aujourd'hui des contemporains, on a bien cette idée de catastrophe générationnelle. Pas une famille, pas une barre d'immeuble, pas un quartier qui n'ait été touché par la mort d'un, deux ou trois membres d'une même fratrie, nous dit Mohamed Meshmash, un des leaders, enfin le président d'Assez le Feu, une association née des émeutes de 2005. Même Fadela Amara, donc ancienne ministre et ancienne présidente de Nipud Nisoumi, nous disait à l'époque que c'est une catastrophe endémique parce qu'elle-même a été un témoin. Elle est native d'une banlieue de Clermont-Ferrand. D'autres nous parlent de la fameuse génération sacrifiée. Donc deux tabous, la question raciale, le problème des drogues qui se conjuguent, qui se renforcent, au point de nous interroger sur le système qui les a engendrés. Et comme dans l'exemple américain, l'hypothèse d'une politique délibérée, hein, je vous parlais tout à l'heure du décret de 72, s'appuyant sur un double déni, est à considérer. Alors, enfin, l'héroïne comme élément transitionnel entre deux époques, je l'ai dit tout à l'heure, l'héroïne qui serait à l'origine d'un enfermement de masse, du divorce des populations avec la police, hein, du divorce de la population des quartiers avec la police, de la criminalisation des cités, et ensuite du stigmate de l'héroïne aujourd'hui et d'une forme de chasse aux tox qui s'est mise en place pour résoudre le problème, puisque les populations ont livré à elles-mêmes, ont été contraintes de prendre le problème en termes communautaires. Et surtout aussi, une chose qui est importante, c'est que cette histoire de l'héroïne, ce serait le laboratoire de cette fameuse image de la racaille, hein, de la caïra qu'on a tous maintenant en tête, le rebeu de banlieue, qui est le gibier classique de nos médias. Donc d'abord, il faut bien comprendre la situation telle qu'elle existait avant l'épidémie d'héroïne. Avant l'épidémie d'héroïne, on nous dit il n'y avait pas de shit, les mecs de mon âge allaient en chercher à Belleville, on avait l'exemple d'une cité normale, beaucoup plus mixte d'ailleurs que les ghettos tels qu'ils existent aujourd'hui. Comment l'héroïne arrive dans les quartiers ? Elle arrive par les « beaux mecs », entre guillemets, c'est-à-dire les mecs qui fréquentent le milieu de Paris, c'est-à-dire les gens qui, à l'époque, étaient finalement les plus en phase d'intégration, ceux qui cherchaient à justement se couler dans cet exemple d'assimilation que les autres générations, que les autres vagues d'immigration avaient pu utiliser. On peut même dire que dans un certain sens, l'utilisation de l'héroïne était une forme de volonté d'intégration, même si ça paraît très paradoxal. Et très vite, l'héroïne installe le chaos dans la cité, braquage entre voisins, vols intrafamiliaux, quelque chose dont Mohamed Messer, je vous ai dit que c'était extrêmement traumatisant, particulièrement pour la communauté maghrébine, le sida, les overdoses, les morts violentes qui dessinent les familles, et les banlieues qui deviennent ces zones de deal et d'approvisionnement. Et important de comprendre ça, zones de deal et d'approvisionnement pour répondre à une demande qui émane de l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête, et ça aussi Michel Alexander le dit, que la majorité des drogues sont demandées par la majorité de la population, qui en général n'appartient pas aux minorités ethniques. Par contre, ça pèse sur les zones vulnérables de la société, et en l'occurrence les banlieues. Alors, quelle a été la réponse de l'État envers ce phénomène ? Répression, criminalisation. La réponse de l'État, c'est arrestation faciès, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui perpétue d'ailleurs une tradition policière qui existait déjà dans la guerre d'Algérie. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de rupture. Les policiers français avaient l'habitude d'arrêter des gens qui appartenaient à ces minorités. Ils ont continué, mais là aussi, héroïne, en tant qu'objet transitionnel, permet de continuer quelque chose qui existait déjà. La prison de Fleury-Mérogis, construite dans les années fin des années 60, qui devient la prison des Arabes de banlieue. Et dans les entretiens, on parle de 50 à 60% de détenus du D2, qui est un bâtiment qui était réservé aux jeunes, qui étaient incarcérés à l'époque pour des questions à l'héroïne. Très précisément, tous les délits connexes et toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants. Manque de statistiques, évidemment, à l'époque, puisqu'il n'y en a pas plus que maintenant. Mais l'administration pénitentiaire, elle, a des pratiques qui, elle, manient parfaitement, avec virtuosité, les questions de race, puisqu'on attribue les cellules et les bâtiments en fonction des couleurs de peau. Avant l'héroïne, pas de trafic de stupéfiants sur une grande échelle en banlieue, je l'ai dit, avec une demande d'héro qui est issue de l'ensemble de la société, des réseaux de vente qui se mettent en place, basés sur la solidarité clanique, ethnique, familiale, et les naissances des fameux réseaux mafieux communautaires qui vont se perpétuer aujourd'hui dans le cannabis et notamment aussi dans la cocaïne, ces fameux réseaux qui sont dénoncés perpétuellement par nos journaux. C'est aussi cette épidémie qui installe cette fameuse défiance envers la police, puisqu'elle n'est plus ressentie comme une protection, mais comme une menace, puisque les habitants sont dans l'ensemble visés par ces contrôles faciès et cette suspicion d'être mêlés à des trafics, chose qui existe toujours aujourd'hui. Et donc on a bien dans ces années-là cette construction de la figure de la racaille, comme je disais, de la caïra, qui commence avec le zonard dans les années 70, mais le zonard a été encore une figure un peu mixte, on va dire, mais qui devient clairement le rebeu de banlieue dans ces années-là, avant de terminer en racaille aujourd'hui. Alors, quelle a été la réaction des habitants ? Eh bien, ça a été le repli communautaire, le fameux repli communautaire qu'on leur reproche à longueur de jour aujourd'hui. Les habitants sont aussi des anciens jeunes de banlieue, qui eux-mêmes sont contrôlés et ont été contrôlés par la police. Des habitants abandonnés face au sida et au deal de cam, qui vont à un moment prendre l'affaire en main, nettoyer eux-mêmes les cités et les nettoyer de manière violente, en se débarrassant de l'héros, en se débarrassant des dealers, avec des opérations montées à coups de batte de baseball, très clairement, des manifestations anti-tox des habitants, des opérations qui sont relatées dans la presse, qu'on peut voir dans la presse de l'époque, notamment la fameuse cité des biscottes, dont je me souviens d'avoir retenu le nom à l'époque, mais aussi des choses que nous a relatées Meshmash pour la cité des Bosquets. Il s'en cache pas, il dit on a pris l'affaire en main nous-mêmes, on a chassé les diseurs, y compris lorsque c'était nos cousins, nos oncles ou nos frères. Et cette chasse aux tox s'est faite par une alliance entre les dealers de shit, les religieux et les petits frères, quelquefois d'ailleurs dealers de shit et petits frères qui sont les mêmes, ce qui explique le stigmate aujourd'hui de l'héroïnomane dans les cités. Il y a toute une construction extrêmement péjorative de la personne qui consomme de l'héro et de la personne qui vend de l'héro
en cité sur la figure du Schlag. Bon, je pense qu'on y reviendra beaucoup plus précisément quand on aura terminé la rédaction de notre travail sur la dispensation de l'héroïne, sur l'histoire sociale de l'héroïne, avec Michel ici présent. Donc l'épilogue, c'est ce statut de consommateur d'héros, ou même le statut de patient de la substitution, qui est extrêmement stigmatisé en prison aujourd'hui, comme nous le relatent tous les témoignages de travailleurs sociaux. Donc je vais conclure sur la double cécité qui nous menace pour comprendre, c'est ce lien évident et clair entre l'usage de drogue et le contrôle par l'État des populations des minorités ethniques. La cécité institutionnelle générée par l'interdiction des statistiques ethniques en France est aujourd'hui contre-productive pour lutter contre le racisme. Elle est pétrie de bonnes intentions républicaines, mais cette fiction est devenue un écran de fumée qui permet au contraire à toutes les formes de racisme de s'exprimer sans avoir à se justifier à la lumière des investigations scientifiques sur le niveau de discrimination subi par certaines « races ». Entre guillemets. La guerre à la drogue offre une occasion unique de continuer à creuser ce fossé entre les communautés. Et je conclurai aussi sur les fameux territoires perdus de la République. Donc c'est une expression classique qui désigne un ouvrage collectif paru en 2002 sur la montée de l'islam et qui désigne surtout, soi-disant, les théories du complot, l'antisémitisme, puis les Français ici de l'immigration, bon, qui est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais dans un schéma de déclinaison du modèle américain décrit par Michel Alexander et le New Jim Crow, la place occupée par l'héroïne dans les années 80 est déterminante. Ces territoires, les territoires perdus de la République, ont été perdus dans les années 80-90 par une population qui a subi une catastrophe sanitaire et sociale, donc je l'ai dit, l'héroïne et le sida, catastrophe en partie causée par l'erreur technocratique de la prohibition des seringues et qui n'a reçu comme réponse de la part de l'État que la répression, seulement la répression. Donc les fils, les cousins, les oncles, les nièces ont disparu. La communauté a réglé elle-même le problème, souvent de manière violente, je l'ai dit, en éliminant l'héroïne par des mesures, en éliminant l'héroïne, mais pas les structures criminelles qui l'ont amenée. De cette époque date la construction d'une figure archétypale que l'on retrouve aujourd'hui parmi les terroristes passés à l'action à Paris et à Bruxelles, les délinquants noirs ou arabes habitant des cités. Le fameux communautarisme, fréquemment décrié comme un vecteur de l'islamisme radical, fut l'une des seules réponses que cette communauté a trouvées à l'époque pour régler un problème qui était un problème de vie ou de mort. Alors, en termes de travaux pratiques, je vais juste terminer par ça. Donc, on voit tous cette photo, donc, voilà, qui est assez explicite. Et ensuite, nous avons les titres de notre presse nationale. On a Libération, Manifestation, un lycéen tabassé par les policiers, Le Figaro, un policier envoyé au tribunal, Le Huffington, Français, un policier accusé d'avoir frappé un adolescent. Et en fait, à aucun moment, la question de la couleur de peau de l'adolescent n'est mentionnée. J'ai même tenté d'ajouter l'adjectif « noir » dans Google. Google ne me répond qu'il ne s'agit juste que d'un lycéen tabassé par des policiers. Et je vous laisse sur cette idée de penser qu'est-ce qu'aurait donné une photo identique dans le contexte des États-Unis. Merci.
Juste pour la lancer, quelques remarques, et puis après, je donnerai la parole. On donnera avec Alexandro et le micro baladeur donc la parole à ceux qui veulent la prendre. Donc, merci à nouveau pour ces deux exposés qui sont, même si on considère les différences de contexte entre la France et les États-Unis, finalement très, très, très convergents. Et je dois dire que, au fond, ce que nous a dit Karl est assez redondant avec ce que l'on sait des paniques morales que provoque la drogue depuis très longtemps. La drogue tue, le cannabis tue, Et on a effectivement des exemples. Donc, les cocaïnomanes noirs tirent mieux que les autres. Bon. Et au fond, c'est une constante que de voir se développer un ensemble de croyances, de représentations qui sont instrumentalisées par des groupes, souvent d'ailleurs religieux, aux États-Unis, pour créer, on dirait en France aujourd'hui, une figure de l'ennemi intérieur, pour en construire socialement une figure de la dangerosité associée aux drogues, mais qui sont au déni ou dont le mépris le plus total des self-evidence-based, des bases scientifiques. Bon, et je pense qu'on pourrait au fond refaire un peu la même histoire en montrant combien encore jusqu'à nos jours, ces paniques morales, ces discours, ces représentations passent outre complètement les résultats des travaux les plus scientifiques, les plus durs, les plus robustes, comme les travaux de sciences sociales réputés être plus molles. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, deuxième remarque, c'est que ce que nous montre, me semble-t-il, aussi bien Karl que Fabrice, c'est que ce n'est pas la drogue en tant que telle qui est dangereuse, mais ce sont les politiques publiques qui réagissent à leur consommation, qui sont toxiques. Hein. D'une certaine manière, la catastrophe sanitaire et sociale dont nous a parlé Fabrice, elle est largement construite et produite par la réponse publique. Et si on considère les choses à l'échelle de notre hexagone, c'est l'État. Hein, c'est l'État qui occupe une place très importante. Ce qui amène évidemment à déplacer le regard de la dangerosité, non seulement des usages vers le contexte, mais des usages et des contextes d'usage vers, encore une fois, l'action mortifère des institutions. Et le décret de 72 qui a été cité pourrait être un exemple. Le passage du Temgesic en début 90 au carnet à souche est aussi une mesure qui pourrait, de détail peut-être, mais illustrer l'espèce de folie de l'action publique. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. J'en lance une, mais encore une fois, peut-être qu'elle reviendra dans le débat. Moi, je serais très intéressé d'entendre Karl Hart nous parler un peu de la façon dont, aux États-Unis, se développe finalement, non pas peut-être un mouvement social, est-ce qu'il faut parler de lobby, mais quand même, suite en particulier au livre de Michel Alexander, de New Jim Crow, au fond, une mobilisation, une effervescence qui consiste à pointer du doigt cette guerre à la drogue comme instrument de contrôle des minorités raciales. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a un mouvement qui sont les acteurs et par ailleurs, à quels obstacles ils se heurtent? Les obstacles économiques sont-ils encore aujourd'hui prédominant, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce que la prohibition, avec sa dimension raciale, est-ce qu'elle n'est pas, elle ne répond pas à des logiques d'intérêt qui peuvent être ceux de la police, des banques, qui trouvent dans l'argent sale une façon de se renflouer à telle ou telle lors de telle ou telle crise économique, ou d'autres acteurs. Donc, en gros, ma question serait quel mouvement aujourd'hui, où on en est aux États-Unis et qui sont les acteurs. Je poserai une question un peu différente, en tout cas en l'écoutant, elle m'est venue à Fabrice, sur la politique d'assimilation. Il me semble qu'il y a un petit soupçon d'optimisme à considérer que la politique d'assimilation a bien fonctionné jusqu'à la fin des années 60 et que les choses ont commencé à se dégrader avec l'arrivée des nouvelles minorités ou des minorités qu'on va appeler postcoloniales. Et éventuellement, peut-être, bon, c'est un effet de tribune. J'aimerais bien que tu puisses revenir là-dessus, parce que, au fond, quand on se rappelle l'histoire des immigrations, notamment telle qu'elle a été faite à un moment où ça intéressait personne, l'immigration en France, par Gérard Noiriel, ce que montre bien Noiriel, c'est que les Belges, les Italiens, les Russes, excusez-moi, j'y pense un peu, les Polonais, jusque dans les années 40, quand même ont été très mal traités. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait prendre comme une provocation le fait que la politique d'assimilation a assez bien fonctionné, ou on pourrait inverser le regard ou la formulation et dire qu'au fond, ce modèle d'assimilation n'a jamais réellement fonctionné. Simplement, il était porté par des croyances, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être on s'en rend davantage compte, et que surtout les croyances qui supportaient le modèle normatif de l'assimilation ou de l'intégration se délitent, ou en tout cas sont remises en cause. Voilà, quelques éléments. Est-ce que l'héroïne a pu... Alors, c'est aussi un dernier point que j'ajoute, et après je me tais, ou je ne fais que distribuer la parole, sur le rôle de la communauté. Alors, est-ce qu'on peut faire une transposition entre communauté au sens anglo-saxon du terme et communauté au sens où on pourrait l'utiliser en France? Bon. Là-dessus aussi, peut-être qu'on pourra revenir sur ces chasses aux dealers, cette prise en main par le quartier, on pourrait dire aussi le quartier ou les habitants du quartier, dans le but d'assainissement du trafic d'héroïne. Quel a été le rôle de la communauté? Quels ont été les autres acteurs qui ont pu participer à une sorte de prise en main du problème face au silence, à la conspiration du silence? Et cela pour évidemment ne pas majorer le rôle d'une communauté imaginaire qui n'aurait pas de transposition claire et directe avec ce qu'on connaît du rôle des communautés aux États-Unis. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Gaël Klein, je suis dans la réduction des risques depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai participé il y a quelques années à une étude qui s'appelait Les Petits Matins, où on faisait une enquête de minuit à 10h du matin sur le 18e et 19e arrondissement. C'est une enquête qui a été menée suite à des plaintes de riverains au moment où on commençait à parler de la salle de shoot, où notre travail est consisté à relever les nuisances qui étaient liées à la consommation de stup et au DILA. Et on a pu se rendre compte de choses tout à fait surprenantes, d'une part concernant les nuisances, que ce n'était pas tant les usagers de drogue qui en étaient responsables, mais plus les forces de l'ordre quand elles intervenaient à 3h du matin avec les gyrophares hurlants et les cris des fonctionnaires de police. On s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, que les personnes de couleur noire, généralement, achetaient leurs produits sur place et le consommaient sur place. Alors que les personnes de couleur blanche, généralement, venaient d'autres arrondissements, prenaient leurs produits et partaient aussitôt. Ce qui expliquait le fait que la police avait plus de facilité, effectivement, à arrêter des personnes de couleur noire que de couleur blanche. Et on a remarqué aussi une pratique qui est en train d'augmenter, à savoir qu'aujourd'hui, on est quasiment plus obligé de se déplacer sur les lieux de deal. On joue beaucoup par téléphone maintenant. Il y a des numéros de téléphone qui sont un peu transmis dans le milieu des consommateurs, que ça soit drogue dite légère ou drogue dure, ce qui permet donc de ne plus aller sur les lieux de deal et d'échapper ainsi à la police. Mais là encore, ça touche une partie de la population relativement aisée qui peut se permettre effectivement d'avoir des domiciles et de faire venir les dealers chez eux, évitant ainsi toute arrestation. Donc on a remarqué qu'effectivement, principalement dans les 18e, personnes de couleur noire sans domicile fixe, qui effectivement étaient les plus touchées, non seulement par les arrestations et les brutalités policières. Qui plus est, depuis l'état d'urgence aujourd'hui, après les événements qu'on connaît, on note aussi une aggravation de la brutalité policière. La question des stupes, moi je pense qu'en fait le problème initial, c'est en fait la précarité. C'est on stigmatise la précarité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et on peut le dénoncer, ce qui se passe à Marseille, mais le marché parallèle qui existe dans toutes les cités, ça peut être choquant, mais c'est un marché vital pour les gens. On ne fait pas ça par plaisir, on ne vend pas de la drogue par plaisir, on vend par nécessité, on vend pour se nourrir, on vend pour nourrir sa famille. Donc on maintient ces gens dans cette précarité, et après, ce qui est surprenant, c'est qu'on s'étonne qu'effectivement, on passe à des excès. La question que je voulais poser... Ouais, je vais poser la question pour répondre. Aux États-Unis, vous avez un cinéma qui parfois peut être assez engagé. C'est souvent considéré comme des films indépendants, donc vu par un public très moindre. Moi, la question que je me pose, c'est que vous parliez très très bien tout à l'heure de la distinction entre l'image qu'on avait de la cocaïne et du crack. Et je note que dans souvent le cinéma américain, on montre la cocaïne finalement comme une drogue plutôt festive qui permet à l'individu de multiplier ses efforts. Enfin bref, la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que vous pensez que les gens qui aujourd'hui peuvent être capables de passer des messages à grande échelle, comme par exemple le cinéma, ne pourraient pas davantage participer à la lutte justement contre les discriminations et contre les brutalités policières qu'on peut voir aux États-Unis?
So I'll just answer the question quickly. Documentary filmmakers, the media, scientists, politicians, they all have a responsibility in making sure that people are treated fairly and they have fair presentations of people throughout a society. But filmmakers are equally ignorant about drugs as the society is ignorant about drugs, because you started your remarks talking about your study of this particular area related to drugs. That's a small snippet of what happens with drug use. For example, that's not the only way that drug use occurs. That's not the only way that drug dealing occurs. I have used drugs all around the world with some important people, with some not so important people. And so there's a wide range of ways in which what happens after drug use, and how it all expresses itself. And so be careful not to use your anecdote as evidence, because anecdote is not evidence.
Moi, je voulais vous interroger sur la question des statistiques ethniques en France. Je voulais savoir si pour vous, c'était pas non plus aussi un risque de consolider les catégories de race et de les utiliser dans des statistiques officielles. Et notamment, voilà, Sarkozy s'est positionné pour montrer en gros l'ethnicité des délinquants. Donc voilà, je voulais savoir s'il n'y avait pas vraiment un risque de consolider ces catégories, d'oublier que l'identité affirmée des personnes est liée à des catégories spontanées qui sont liées aussi à un contexte et à des rapports de force actuels. Voilà, merci.
C'est l'absence de statistiques ethniques qui permet à l'extrême droite d'occuper le terrain. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir scientifiquement quelle population, en termes de visibilité, hein, de couleur de peau, sont victimes de telle ou telle chose. Par exemple, le nombre de Noirs et d'Arabes qui existent en prison. Résultat, qui en parle? C'est Éric Zemmour qui, le premier, fait une déclaration en disant « En prison, il n'y a que les trafiquants sont tous Noirs et Arabes ». Bon, alors, si on laisse effectivement le débat à cette partie de l'opinion, ben, l'image continue à se construire. Mais ce que dit d'ailleurs Karl, ce qu'il m'avait dit la dernière fois qu'il est passé, c'est que souvent les statistiques, c'est le seul avocat des gens pauvres. les pauvres, souvent, n'ont comme avocat que les statistiques. Parce que des vraies statistiques ethniques permettraient de comprendre que les Noirs et les Arabes sont peut-être les plus souvent emprisonnés, mais c'est aussi souvent combien il y a de mères célibataires, par exemple, issues de ces populations, combien il y a de titulaires du RSA, l'alphabétisation, enfin donc tout ce qui est considéré objectivement comme des facteurs aggravants de pauvreté et d'exclusion. Et lorsqu'on met tout cela ensemble, on peut faire ce qu'a, le travail qu'a fait Michel Alexander aux États-Unis, c'est-à-dire montrer comment la répression de l'usage de drogue est construite pour cibler une population, parce que scientifiquement, on peut le démontrer.
Moi, je suis un ancien usager d'héroïne, de crack. Je suis un rescapé des années 80. Je vais vous poser la question sur... je suis d'accord sur le fait qu'on ait stigmatisé toute une partie de la population, dire c'est les Noirs et les Arabes, ou alors c'est un tel, un tel. Le problème que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous penseriez d'une légalisation des drogues douces? Moi, j'ai pas de parti pris là-dessus, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Moi, mon avis personnel, c'était que, justement, ces cités là, en banlieue parisienne ou dans les autres banlieues, ou même aux États-Unis, vivent de ça. Et si on leur enlève ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour une légalisation des drogues?
As my job as a scientist, I have given thousands of doses of drugs like crack cocaine, methamphetamine, cannabis, and those drugs to people to study the effects of these drugs in people. So thousands of doses. There was a time when I believed that we in the United States should do like Portugal and decriminalize all drugs. That is, no one would go to jail for drug possessions. I no longer believe that. I think that all drugs should be legalized, just like we do alcohol and tobacco. Now, if you legalize drugs, that means you must stop lying to the population about drugs. And that means that you have to re-educate people about how to stay safe and how to use these drugs to enhance the human experience. Just like we show people how to drive automobiles. Automobiles are potentially dangerous, of course, but we make sure people have the appropriate training in order to engage in driving automobiles safely. We make sure they have seat belts. We have speed limits. Sexual behavior is a similar sort of thing, except we don't show people how to have sex, which is a horrible thing. We should, but we don't. But it's the same sort of thing. You have these behaviors in society that are potentially dangerous, but we do okay with some education, with some truth. But as it relates to drugs, we rely on our information, our stories about drugs, coming from people who have had problems with drugs. Those are not the only people that we should rely on. Like, I have used drugs and currently use drugs, but I didn't have problems with drugs. I never had drug addiction. But people like me don't come out and share their stories because they're uninteresting. I can't tell you a story about hitting the bottom and then losing my wife and and going to jail. Those are interesting stories. My story is not interesting. I can tell you I did some heroin one night. Then I went to work and taught my class. Then I paid my bills and I handled my responsibilities. That is not interesting. So you, the public, don't hear these stories. But that's the typical story. And that's what we have to do. And if we want to think about changing how to regulate drugs, we have to broaden the scope of the stories, the narratives that people are told. If we don't, none of this is going to work.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que, en fait, ce que vient de dire Karl, c'est exactement ce qui nous tue ici, en fait. C'est que, je pense qu'il faut reconnaître le courage institutionnel de pouvoir parler de son usage de la position qu'il occupe. Je pense qu'il n'y a absolument aucun équivalent dans la société française à l'heure actuelle. Et pourtant, ils sont nombreux à lui ressembler. Et ça confirme ce que je pense souvent, c'est que les drogues en soi ne sont pas intéressantes. Comme il dit très bien, le fait de prendre de l'héroïne ou du cannabis ou dans telle ou telle situation, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, et c'est ce dont on a essayé de parler pendant ce séminaire, c'est comment les drogues sont utilisées à des fins politiques, dans des buts de contrôle social ou autre, enfin dans des buts politiques. Mais les drogues en soi, aucun intérêt.
Trois observations brèves suivies d'une question. La première, c'est sur la question raciale. Et le but de l'utilisation des drogues comme organe de contrôle social. Il me semble que la société française n'est pas exactement la même que la société américaine et que c'est vraiment un instrument de contrôle social de l'ensemble de la société. Évidemment, ça vise à réprimer notamment certaines minorités ethniques, et c'est pas moi qui vais sous-estimer ça, parce que moi j'ai passé ma vie à être militant antiraciste et à défendre. Enfin, dans la société française, la construction de l'ennemi intérieur, c'est pour contrôler l'ensemble, beaucoup de la société française. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette proposition? La deuxième, c'est votre observation qui pour moi est très nouvelle, et je pense que ça va être nouveau pour beaucoup de gens, et ça implique, ça pose beaucoup de questions. C'est cette opération je vais appeler l'opération de police intérieure qui a été faite dans les banlieues pour éliminer les trafiquants d'héroïne. On voit bien que c'est pour des raisons essentiellement sanitaires, si j'ai bien compris. Enfin, ça pose quand même en soi un problème de faire comprendre, parce que sinon ça pourrait être aussi détourné en appelant la population à faire des milices contre les trafiquants de drogue en général. Donc c'est assez compliqué de bien expliquer ça, mais c'est très important. Et ça veut aussi dire que la population est capable de prendre ça. Ma question, ça va être, vous dites, parce que ça c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement, les structures criminelles qui avaient amené l'héroïne, donc quoi maintenant? Elles se sont, peut-être qu'en France on ne le sait pas parce qu'on ne veut pas le savoir trop. Elles se sont reconverties un peu dans le hash, elles se sont reconverties dans la cocaïne ou dans du multitrafic différent. Voilà, ça, c'est la question que ça. La troisième, plus précise, ça c'est aussi un de mes dadas, c'est la question du cinéma. Et là, je la poserai aussi à Monsieur Hart. C'est vrai qu'il existe la possibilité d'un cinéma indépendant, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'industrie du showbiz, espérer raisonnablement qu'elle ne serve pas de vecteur à une image effrayante, mais donc fascinante, de la délinquance. Bon, d'autant plus que aux États-Unis, malgré tout, on sait que la mafia a une énorme influence sur Hollywood et qu'elle transmet par ce canal une partie de l'image qu'elle veut donner d'elle-même, et elle veut certainement pas donner une image sympathique. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette question-là? Et on pourrait encore vous dire beaucoup de choses sur la représentation de la délinquance, de la grande délinquance dans le cinéma. Et des effets en boucle que ça produit.
Il y a une polémique qui tourne, qui buzz aux États-Unis sur les propos d'un ancien conseiller de Nixon qui parle aussi de la guerre contre les jeunes et contre les militants anti-Vietnam, c'est-à-dire qu'il décrit bien ce que tu dis, c'est-à-dire un instrument de contrôle social qui était ciblé contre les Noirs en ce qui concerne l'héroïne, mais qui était ciblé contre les militants pacifistes, les jeunes à cheveux longs, en ce qui concerne le cannabis. Et là, j'aimerais bien que Karl nous dise un mot sur l'importance de ce buzz à l'heure actuelle aux States.
I think we should just be clear In any society, people who are in control, there are groups who are considered despised in a society. In your society, I suspect Muslims and black folks are despised. Now, drug policy is but one tool. There are other tools. Around the globe, the tool that people are using today is terrorism. In the United States, we are talking about not allowing people, certain people, to come into our country. That's a tool to go at the people that we despise. Drug policy functions as a similar tool. So it's just one of the many tools that the people in control and power has in order to deal with the despised groups. So this is not special. And so I don't want to talk about drug policy as if it's special. It is not. Drugs are not special. And as in your comment about Hollywood, I don't know about Hollywood. Hollywood is a waste of time for me. I think that in the United States, for example, one of the things that Hollywood used to do with cannabis, it used to show cannabis only as this drug that caused people to act crazy, to get paranoid. It showed cannabis users in a negative light. And then cannabis users came out of the closet. There are a wide number of important people who use cannabis. The last three presidents of the United States use cannabis. Hollywood can no longer give those caricatures or those unrepresentative views of cannabis because nobody would watch their film if they did. But they can do this with heroin. They can do this with crack cocaine because people have not come out of the closet and said, that's bullshit, that's inaccurate. And when people come out of the closet and call it bullshit, then it won't happen. But the artists, they don't lead. They usually follow the population. In these spaces with academics and intellectuals, you are supposed to lead. You are the one that shaped what artists are doing. You are the one that shape what regular folks think. If you don't do this, well, we're fucked.
Georges Lachaise, à Sud. Avant que les lois changent et qu'on légalise tout, en attendant, est-ce que tu penses qu'un outil qui se développe de plus en plus comme Internet et particulièrement le dark web permet de lisser les questions de race, que ce soit concernant l'offre ou la demande, ou est-ce que tu penses que ça les renforce, les stigmatisations et les discriminations, en excluant une partie de la population? Et je pense justement à un film, on parle de film, Dope, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui parlait justement d'un nouveau genre de ghetto movie où on était sur Internet et plus dans la rue.
Good question.
Well, the problem with the Internet is that there is no quality control. On the one hand, the Internet is a great thing because people can have alternative sources of information. That's a great thing. But the quality of the information that you're consuming, there's no control. Oh, dealing drugs,
or buying drugs
through the Internet.
Yes,
yeah, certainly people buy drugs through the Internet. But do you think one second. Do you think people who have money, wealthy people, do you think they're buying their drugs on the Internet? No, that would be stupid. Because then you set yourself up to be arrested. You have connections. And so some people have to buy drugs on the Internet, but you set yourself up to being exposed. People who are a means try to limit their exposure to make sure that they're not exposed. And so, yeah, that's one way that people do it, but I would never do that because I would set myself up to be exposed.
Black market is supposed to be
Yeah, the darknet. Speaking about the darknet.
I don't. Bon. Well, maybe it is secure. It's a risk that I can't take. It's a new generation. That's right. That's right. And maybe that's how they do it.
Oui, je m'appelle Zorka Domic, je suis psychiatre, donc je vais dire quelques bêtises. Et, j'étais très intéressée par les deux interventions qui ont apporté beaucoup, beaucoup de questions riches. Et surtout, il m'intéressait cette unanimité d'idées que ce n'est pas la drogue. Et que c'est pas la drogue qui est dangereuse en soi, hein. Et ce n'est pas, c'est même pas un toxique la drogue. Mais ce qu'on vient de développer, c'est que c'est plutôt le pouvoir, c'est plutôt l'État qui fait que la drogue soit dangereuse et soit un moyen d'exploitation, de discrimination, etc. Mais il y a une chose qui me dérange un peu, qui est le fait qu'on a parlé de la race. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que c'est une race. Parce que je crois qu'il y a d'autres déjà études qui ont bien développé, démontré que la race, c'est une chose qui n'existe pas.
Ce que j'ai essayé de démontrer tout à l'heure, sur le fait que ce discours, qui est un discours éminemment respectable, discours universaliste, et qui est validé par la science, effectivement, scientifiquement, les races n'ont aucun sens, et c'est d'ailleurs pour ça que le président Hollande avait proposé même de retirer le mot « race » de la Constitution, parce qu'il était dans le préambule, pour dire justement que on ne devait pas en tenir compte. Mais bon. Et je réponds par la même occasion à la remarque de Michel sur l'assimilation tout à l'heure. Mon hypothèse est que, à partir du moment où on a eu des minorités visibles, c'est-à-dire des gens, comme Karl, comme moi, comme d'autres gens ici, qui portent sur leur visage leur origine de manière visible, dont l'apparence physique n'est plus une affaire privée, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire, mais qu'une affaire publique qui nous accompagne dans notre recherche d'emploi, qui nous accompagne dans notre recherche d'appartement, qui nous accompagne dans notre rapport avec les forces de police. On doit tenir compte de cet aspect des choses, et l'hypothèse est que les assimilations précédentes, personnellement, je pense qu'elles ont fonctionné, non pas parce qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des Italiens jetés dans le port de Marseille. Il y a eu des trucs terribles avec les Belges qui venaient travailler dans les mines. Au bout d'une, deux générations, terminé. La plupart des gens que je connais, d'ailleurs dans le Nord, qui portent des noms polonais, ils ont l'accent du Nord et ils sont parfaitement dans cette position claire d'assimilation, encore une fois, qui a fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai parlé des exemples extrêmement emblématiques des ministres noirs en 1917, qui était une curiosité mondiale liée à cette affaire d'assimilation. Avec l'arrivée en masse de minorités visibles, encore une fois, il me semble que l'appareil s'est grippé et que nous avons aujourd'hui trois générations de gens issus de l'immigration qui continuent à vivre et des stigmatisations quelquefois supérieures à celles qu'ont vécues la première génération, celle des immigrés venus travailler. Et c'est pour ça que le modèle est grippé, c'est pour ça qu'on a des ghettos qui se constituent beaucoup plus forts et beaucoup plus communautaires qu'ils pouvaient exister auparavant. D'ailleurs, auparavant, la notion de ghetto était impossible à concevoir en France. Voilà. Juste pour répondre à votre histoire, oui, les races n'existent pas scientifiquement. Oui, elles existent dans la réalité, et je pense que les Américains, là-dessus, ont des choses à nous apprendre de la manière dont ils résolvent, notamment par l'affirmative action, qui est une manière de prendre en compte ces différences dont les minorités visibles, dont nous souffrons tous les jours.
Je voudrais paraphraser le grand historien Jacques Le Goff, qui disait « Le problème, ce n'est pas celui de résistance ou pas des miracles ». Au Moyen-Âge, ça n'existe pas, évidemment, le miracle. Mais les gens qui y croient, ça existe. Eh bien, les races, c'est un peu pareil. Ce n'est pas, évidemment, les races humaines, c'est une invention, mais la construction raciale, la différenciation d'identification, il y a une autre, ça, ça existe bel et bien dans les sociétés. C'est ça qui est le problème.
Well, it would be a mistake. It would be a mistake to say that race does not exist. That's just simply not true. Race does exist. From a biological perspective, it does not. From a biological perspective, it's just not. But from a social perspective, race is very real. And it's a social construct, not a biological one. And so if we think about it in that way, we can study it scientifically from a social scientific perspective. And we do. But from a biological perspective, there are no differences. There is none. And so we can be nuanced in thinking about this issue. And if we're nuanced in thinking about this issue, then we help. We can solve the problems related to the social construct of the issue.
Je voulais réagir au fait que les substances en elles-mêmes ne sont pas le problème. Moi, j'ai peut-être beaucoup de préjugés sur la question, donc je voulais vous poser une question là-dessus. Il me semble que j'avais lu dans le livre de Michel Alexander que le crack avait été introduit dans des quartiers pauvres noirs par la CIA, etc., pour aussi désarticuler les organisations sociales sur place et créer un problème au sein de ces quartiers. Donc je voulais savoir si c'était réel ou pas, et si effectivement il n'y a pas de substances qui en soi peuvent être un problème, et est-ce que la consommation problématique de ces substances est liée aussi à des problèmes sociaux, des conditions socio-économiques, etc.
Well, this issue of crack being introduced into the black community by the CIA, the U.S. government, that's an issue that has been far overblown. It's a distraction. One of the things that happens in the United States and other places is that law enforcement officials, they go undercover, and they also participate in drug sales in order to catch drug traffickers. That's not unique to crack cocaine. That has happened throughout history. But people have focused on that issue. But it's a distraction. That's not the issue. The issue is related to where we put the predominant amount of law enforcement personnel. We put predominant law enforcement personnel in black communities. And when you do that in places like the United States, you are going to arrest more people in those communities. It's not complicated. It's quite simple. And so if we keep our focus there, it just helps us to solve the problem. But this issue of this conspiracy theory issue, it distracts us from doing real work.
Je peux même rajouter que moi, le souvenir que j'ai de la lecture d'Alexander, c'est qu'elle dit exactement l'inverse. C'est qu'elle dit qu'au départ, en tant que militante antiraciste, elle était partie de cette hypothèse que c'est pour l'héroïne, l'idée c'est que l'héroïne avait été introduite par la CIA pour casser le mouvement des droits civiques qui culminait à cette époque. Et elle dit très clairement, j'ai compris en étudiant les statistiques, que le problème n'était pas la drogue, mais la guerre qui a été menée contre cette drogue, et que la drogue en soi, encore une fois, s'il n'y a pas le contexte économique, social et politique... C'est un truc neutre. Il y a des gens qui en prennent, des gens qui n'en prennent pas, des gens qui en souffrent, des gens qui n'en souffrent pas. Mais que le fait de polariser cette idée de CIA, ça rendait encore le côté la drogue et le fléau. Et il suffit d'introduire la drogue quelque part pour que des dégâts se mettent en place. Non, c'est pas la drogue qui crée les dégâts, c'est la manière dont elles sont consommées et la manière dont on la réprime, surtout, et dont on réprime certains groupes et pas d'autres. Donc je crois qu'il faut vraiment relire l'ouvrage d'Alexander sur ce passage-là.
Oui, bonjour. Moi, je travaille pour un bailleur social. Et depuis 6 ans, j'ai, avec les autres référents de tranquillité, parce qu'il y a un groupe de travail au sein des bailleurs sociaux, on devient obsédé qu'on doit gérer, très concrètement. Et on a observé une professionnalisation et une criminalisation, une montée en violence, On peut témoigner également des effets négatifs au quotidien pour les habitants des interventions des services de police. Et en même temps, nous, les premiers, à côté des habitants, on demande l'intervention des services de police parce qu'on est bien démunis. Et en même temps, on voit bien qu'au quotidien, ce sont des nuisances sonores, c'est du stress, ce sont des trafics qui se réorganisent mais qui ne se défont jamais totalement. Donc c'est finalement... Enfin, on voit plutôt les effets négatifs de l'intervention des services de police. Et par ailleurs, on voit des recrutements de plus en plus jeunes de guetteurs. Enfin, dresser un peu le tableau très négatif de tout ça. Et ma question, c'est plutôt par rapport à la dépénalisation et à la légalisation. C'est qu'autant la dépénalisation, je peux me dire, bon, bah, du jour au lendemain, au moins, on remet les gamins à l'école et on demande aux policiers de se concentrer sur les choses plus importantes et sur la violence aux personnes. La légalisation me fait peur, mais parce que je ne connais pas bien le sujet, parce que justement, on peut se dire, bah, ça peut peut-être être récupéré par des grosses industries type tabac, et qu'est-ce qui va se passer? Quelle réorganisation de ce commerce parallèle dans les quartiers? Donc j'aimerais plutôt, enfin, ça m'intéresse votre basculement sur la... Vous étiez en faveur de la dépénalisation et maintenant la légalisation, et comment vous réagissez là-dessus? Et j'aimerais bien aussi avoir votre point de vue.
I'm sorry, why is that a problem in a capitalistic society? This is capitalism, and if you're in a capitalistic society, corporations will get into a business to make money. Why do we think of drugs in being different? The problem with tobacco and big tobacco, why societies are concerned about tobacco is because tobacco companies lied. They lied for many years about their product. They misled the public for many years about their product. And so as a result, the public is upset with big tobacco. But not because of the fact that they're making money. Pharmaceutical companies, legal pharmaceutical companies, are some of the most profitable businesses in our society. And they are allowed to do make their money with impunity. There are other people, automakers, they make a lot of money. There are a number of industries that make money. That's what you do in capitalistic societies. If we're concerned about people making money, then we should probably think about changing our economic system.
Bonjour, j'ai juste une petite info, en fait, si ça intéresse des gens. Sur ce sujet-là, il y a un livre qui est très bien, c'est Le Monde de l'ombre de Didier Fassin, qui étudie justement les populations carcérales françaises. Et on se rend compte que beaucoup de nos concitoyens d'origine postcoloniale sont incarcérés. Donc c'est un bouquin qui est très intéressant. Moi, j'ai une question à Karl Hart. Est-ce que vous pensez que la récente épidémie d'overdose mortelle parmi la middle class blanche américaine, du fait des prescriptions intempestives, justifiées ou non justifiées d'opiacés, pourrait changer un peu les représentations des Américains sur les consommations de drogue ou sur les gens qui utilisent des drogues, et peut-être aussi amener d'autres réflexions sur les lois.
Présente-toi.
Je suis Elisabeth Avril, je suis la directrice d'une association qui s'appelle Gaïa Paris.
You speak of the heroin overdoses in the United States now, yes? The heroin and opioid overdoses or opioid use, that increase in opioid use in the United States, has changed the conversation slightly. The conversation has changed to where we are slightly more nuanced, where we can say we need to be more sympathetic towards these white opioid users. We need to make sure that they can receive treatment and treat them with compassion. By the same token, we're saying that we're passing new laws, more punitive, more tough laws, against the people who are trafficking opioids and heroin. And if you look at the internet or any newspaper around the United States, you see that the people who are going to prison for opioid trafficking are black and Hispanic. And so we are able to be compassionate towards the white users when the face of the user is white, but by the same token, we are being very punitive towards the traffickers. So we have improved.
Sur les quartiers, en fait, la simple dépénalisation ne résout pas le problème essentiel du trafic et notamment de la violence que ça génère. Et je pense que de plus en plus, les arguments en faveur de la régulation, donc la légalisation, c'est une autre forme de parler de légalisation, viennent partout dans le monde de ces questions de violence. Et ces questions, bon, économiques aussi, évidemment, parce que, comme il dit très bien Karl, et, évidemment, on vit dans une société capitaliste. Donc, toute forme de régulation devra tenir compte de ça. Et effectivement, il y a différents modèles de régulation, le tabac, l'alcool. Mais sur la question de la violence, il est très clair que la simple décriminalisation, effectivement, résout un certain nombre de problèmes, notamment en matière de communication sur les drogues, où on est beaucoup plus libre de faire de l'éducation à la santé, hein, qui tienne compte de la réalité des choses et non plus de toujours avoir une novlangue qui évite de présenter les drogues sous un jour favorable, donc vraiment le truc qui nous obtrue l'esprit. Mais sur la question de la sécurité, il est très clair, et là je prolonge ce que tu disais, Charles-Henri, oui, je pense que l'héroïne a amené des structures criminelles qui n'existaient pas dans nos quartiers, et ça, pour ça, les entretiens le montrent. Il y a même une espèce de nostalgie du bon vivre. Avant l'héroïne, on était tous copains, on avait plein de races différentes, tout le monde s'aimait, et puis paf, bah, c'est un peu, hein, voilà, comme toujours, on avait 20 ans aussi, je pense que c'est aussi ça, mais bon, paf, l'héroïne est arrivée, et ce qui n'est pas faux, c'est que quand les habitants ont chassé les dealers d'héro, ils ont gardé les structures criminelles. Et notamment, parmi les gens qui ont chassé les dealers d'héro, il y avait probablement, et il y a, enfin, même sûrement d'ailleurs, parce que c'est prouvé par les témoignages, des dealers de cannabis. Donc, la structure criminelle est restée, et aujourd'hui, la structure criminelle, elle est beaucoup plus violente qu'elle n'a jamais été. Et à chaque fois que la dernière illustration, c'est les histoires de Marseille, qui donne l'occasion à M. Mennucci, l'ancien candidat à la mairie, de parler de légalisation. Donc on voit bien que ça ne vient plus du côté sanitaire, et ça, c'est très intéressant pour nous. L'objet est de plus en plus politique.
Moi, j'avais une question sur ça, donc j'ai eu ma réponse, en fait. Sur la succession et l'enchaînement des dealers d'héroïne qui peuvent devenir des dealers de cannabis, et est-ce que c'est une question actuelle? On dit, si on légalise, est-ce que les dealers vont pas vendre autre chose? Et ça fait peur aux gens, type des armes. Mais on voit qu'ils sont passés d'un produit un peu compliqué, l'héroïne, à un produit beaucoup plus courant, le cannabis. Et ils vont pas passer du cannabis au Kalachnikov, je crois pas ça.
Ouais. Bon, alors là, c'est l'autre problème, mais j'aimerais bien que Karl commente aussi après. Juste, c'est la question de l'offre et de la demande. Ouais. C'est-à-dire qu'en matière de drogue, la prohibition inclut toujours l'idée, infuse l'idée que c'est l'offre qui prédomine. À partir du moment où on met une drogue en place, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de l'héroïne. Les dégâts viennent d'eux-mêmes parce que on offre de la drogue et les gens vont se précipiter forcément dessus. Dans la réalité, je pense que c'est complètement différent. Les gens utilisent des drogues de manière très rationnelle. Alors évidemment, c'est des généralités. Il y a toujours des contre-exemples. Il y a les questions sociales qui jouent énormément, les questions d'éducation, les questions de culture. Mais globalement, les usagers de drogue ont un facteur rationnel pour utiliser une drogue et pas une autre. Et pour aller dans votre sens, quand on est consommateur de cannabis et que demain, on vous propose de l'héroïne, la grande majorité des gens ne se précipitent pas sur l'héroïne. Donc voilà.
Is prostitution legal in France?
Yes, in fact, yes. No, it is. It is, but there is a recent law.
Okay. The point is, that question is sometimes, it disturbs me. It disturbs me because it pretends that we will, at some point in our history, get rid of deviant behavior. That we will, it is possible to get rid of deviant behavior among humans. That's a pipe dream. That will never happen. And so that means that if you legalize some drugs and people who participate in the black market today, they will probably, in some cases, go to another black market. But that's just how it works. We want deviant behaviors in a society. You don't want everyone to behave the same. And people who engage in deviant behaviors help us to sometimes understand where the lines are. And deviant behavior becomes important because there is because they are scarce. And when some behaviors are scarce, as Fabrice alluded to, the price increases. And so the notion that we will get rid of deviant behaviors, it's a false notion, and it's one that you should dispense with.
Moi, si vous permettez, je voudrais rajouter un petit mot sur justement la question des effets, qui est une question qui revient souvent dans le débat public. En gros, si on légalisait, qu'est-ce que deviendrait le bise dans les cités? Bon, il y a une chose qu'on pourrait répondre, c'est on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, faute d'équivalent comparable, parce qu'on ne peut pas comparer avec le Portugal, par exemple, ou avec des pays qui ont été décriminalisés. On ne peut pas non plus comparer avec la Hollande, bon, qui s'inscrit dans un contexte très particulier. La deuxième chose qu'on pourrait quand même répondre, c'est que ce n'est pas simplement en développant dans une nouvelle direction une politique des drogues qu'on réglera la question sociale. Or, à Marseille, la question principale, c'est la misère. Ce n'est pas les merguez, c'est-à-dire le fait de faire brûler les gens dans les voitures. Ce qui veut dire que on a besoin d'une approche globale, ou on aurait besoin d'une approche globale qui associe ces mesures de légalisation un plan social qui favorise l'insertion, mais pas sur le papier, avec des moyens. Et d'une certaine manière, je pense qu'à l'échelle locale, les acteurs, ça peut être les bailleurs, sont face à un mur, hein, face à un mur, parce que effectivement. Il manque quelque chose. Hein. Il manque quelque chose. Bon. Alors, ça renvoie, à mon avis, je dis ça, parce que ça renvoie à une question qu'on a un peu abordée tout à l'heure, de l'articulation entre ce que Foucault appelait la gestion différentielle des illégalismes, c'est-à-dire le fait que, selon qu'on est pauvre ou riche, on ne traite pas les illégalismes de la même manière. Il y a des illégalismes de droit et il y a des illégalismes de fait. Il y a des illégalismes tolérés et des illégalismes pourchassés par la justice à partir du 19e siècle. Bon. Et d'une certaine manière, à mon avis, la question, c'est est-ce que cette espèce de chasse à la couleur, aux minorités, dans le domaine des drogues ou dans d'autres domaines, et la continuation de cette gestion différentielle des illégalismes, des déviances, avec tout ce que ça implique d'injustice, de manquement aux droits de l'homme, etc., ou est-ce que ça inaugure, en particulier en France, un nouveau cycle, ou en tout cas quelque chose de nouveau? Et à mon avis, la question, elle n'est pas simplement que rhétorique, parce qu'elle permet de répondre aux pourfendeurs du culturalisme, du communautarisme, la question raciale est en lien avec la question sociale, enfin, pour le dire très, très, très rapidement.
Je vais être bref, mais juste une question qui s'adresse... c'est une question de la racialisation, parce qu'elle est très présente aujourd'hui. Et je trouve, en effet, c'est indiscutable qu'il y a des processus de racialisation opérés par des dispositifs étatiques, de toutes sortes, et puis sédimentés historiquement, etc., etc. On pourrait dire plein de choses sur la question assimilationniste, enfin, bon... Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est que ces grands unificateurs soient incorporés aussi comme forme d'émancipation au miroir, hein, ce qui a été le cas historiquement, et pour de bonnes raisons, certainement. Mais comment on fait pour, là où il y avait de la multiplicité, du pluralisme, d'une certaine manière, dans ces assignations raciales, parce que est-ce qu'un Sri Lankais qui est noir, c'est un noir générique? Est-ce qu'un Dogon africain, c'est un noir générique? Est-ce que Fabrice Olivier, c'est un noir générique? Est-ce que, du coup, moi, je suis un blanc générique? Et on en arrive à ces histoires-là, aujourd'hui, du pire, qui, pour moi, est une des pires des choses possibles, c'est-à-dire cette logique dans laquelle on dit « nous, les blancs et les juifs ». Bon, sorte des sous couvert de constructionnisme social, quoi, mais quelque chose qui est assez étrange comme logique d'émancipation qui coupe pour moi qui fait vraiment obstacle à une composition un peu plurielle qui est toujours à la base de tout processus d'émancipation, y compris par rapport à la question des drogues, aussi par rapport à la question des drogues, au sens où tu dis, Fabrice, les drogues, on s'en fout. Je comprends qu'on puisse dire ça, finalement, chacun a affaire aux drogues comme il peut, comme il veut, mais il y a tout de même là-dedans aussi de la pluralité, et cette pluralité-là, nom de Dieu, on l'entend de moins en moins. C'est-à-dire, quand je dis pluralité, je veux dire des manières différentes de se rapporter à quelque chose, en alliance avec d'autres gens qui ont d'autres expériences. Et cet espace-là, un peu coalescent de mise en rapport, qui disparaît avec ces grands unificateurs, qui soient raciaux en termes d'analyse critique, hein, c'est évident qu'il y a une racialisation en France très forte. Cette image-là que tu évoques du lycée Bergson, les gamins qui se prennent un coup de poing sur la gueule, c'est vrai qu'on s'est tous dit, mais évidemment, c'est un gamin noir, putain, et c'est dit nulle part. Tu dois aller voir dans la vidéo. Mais la reprise en termes d'émancipation de ces grands unificateurs, est-ce qu'aujourd'hui ça nous aide vraiment? Bon, moi, c'est une question que je voudrais vous poser. Sous prétexte que la République avait aussi un grand unificateur qui était le citoyen, hein, sans racines, sans attachement, sans pluralité possible, que ce soit. C'est les cas en Bretagne, comme c'était les cas des sujets post-coloniaux, quoi. Hein, bon, voilà.
Non, mais bon, le citoyen universel, il est blanc, en fait. C'est tout le problème, et c'est ce que j'ai essayé de dire par rapport à la question de l'expansion coloniale, hein, qui a, quand on s'est trouvé, quand les blancs se sont universels, se sont retrouvés en contact avec des populations qui n'avaient pas la même couleur, ils n'auront pas donné le statut de citoyen parce que le citoyen, il est blanc. Alors, après, il faut comprendre qu'aujourd'hui, deux siècles d'attitude comme ça, en plus issue de la Révolution, et j'ai insisté sur les choses indispensable et que nous ont apporté la Révolution, c'est indéniable que, y compris toutes les luttes anticoloniales, ont puisé dans le terreau idéologique de cette capacité de révolte qu'ont eu les révolutionnaires de 93. Mais deux siècles d'hypocrisie, de schizophrénie, ça donne les indigènes de la République. C'est-à-dire des gens qui, alors clairement, affichent des positions raciales, y compris en y incorporant les juifs comme une catégorie intermédiaire, je n'ai pas très bien compris, mais c'est comme ça, entre le blanc et les autres. Mais bon, voilà, si tu veux, l'effet secousse inverse donne des réactions qui sont racistes, effectivement, au sens où, effectivement, la question des races pose problème quand il y a racisme, c'est-à-dire utilisation stigmatisante. Maintenant, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que dans le fait d'être reconnu dans sa corporalité, avec l'essence, il y a quelque chose aussi qui participe de la construction de l'identité. C'est-à-dire que oui, c'est l'histoire de la négritude, Césaire et Senghor, deux intellectuels français, ont conçu ce concept de négritude pour redonner un sens positif à leur corps. Fanon aussi, il en parle très bien. Et ça, c'est peut-être ça qu'on a le plus de mal à gérer, en fait, avec notre expérience universaliste, c'est de comprendre qu'il y a un contenu positif aussi dans cette corporalité. J'espère que je suis à peu près clair, parce que c'est des notions complexes.
On a assisté il y a quelques mois, de par les médias français, à de nombreuses, je vais pas dire bavures, mais plutôt des crimes policiers aux États-Unis. Ça a été à un moment donné régulier, on en voyait régulièrement aux infos, où ça a choqué beaucoup de monde. On était témoins de ça. En France, aujourd'hui, du moins en Europe, on commence à vivre dans un repli, on ferme nos frontières, on a une répression qui devient de plus en plus voyante, de plus en plus difficile. Nous, les actrices, les acteurs sociaux, on commence à avoir du mal à savoir où aller, parce qu'on a le sentiment que finalement aujourd'hui les ennemis ont changé. On parlait de mondialisation, on parlait de grandes entreprises, on a l'impression que on est passé à un level au-dessus, et quelque part on se sent un peu désarmé. On n'est plus dans post années 60-70 où effectivement on avait une culture qui nous permettait encore de travailler. Aujourd'hui, je pense que pour parler des minorités, pour parler des usagers, pour parler des actrices et des acteurs sociaux, on a un ennemi commun, c'est l'État, c'est la police, et effectivement c'est cette mondialisation qui nous maintient, nous tous, aussi intellectuels ou pas que nous soyons, dans une précarité. Ma question, elle est toute simple. Il y a eu, à un moment donné, il y a quelques années, le Weather Underground aux États-Unis. Aujourd'hui, quelle forme de lutte prenez-vous?
In the US, there was the Weather Underground, you're right, in the 70s, particularly. Today, are you familiar with Black Lives Matter? I think Black Lives Matter and those type of organizations, those types of activists,
they have changed the game in ways we have not seen in the United States. I guess we haven't seen them since the 1960s and early 70s. And so what they're doing, Black Lives Matter, I think it's pushing the society, our political candidates, particularly the Democrats, are having to respond to Black Lives Matter. And with Twitter and the social media, the various candidates are responding. I don't know what the results will be, because particularly as it relates to drugs, many of those folks don't know much about drugs. And so I don't know what the outcome will be. But I am really happy that they're on the scene, because I think that for the young people, they are showing the young people how to resist and how to protest and how to push your political figures. And they are, this is a group that is very rude. And these times and these situations call for people to be rude.
Could you say a few words about treatment of addiction in jail? Is it available for everybody? How often is it accessible, and how often is it successful?
A treatment. So I teach in prison every Friday night as well. So one of my I volunteer my time. There are prisoners who are working on their college degrees. So I teach in Sing Sing, which is a maximum security prison in New York State, where people are there for capital offenses like murder and rape. So I know a little bit based on what I do and also what I read. Let's be clear. Most drug treatment is rubbish. And so when we think about treatment of any kind in prison, whether any type of medical treatment, they get poor treatment in general. They get poor everything in prison, food, treatment, everything. And so if you ask about drug treatment specifically in prison, it's certainly technically available, but it's even worse than the treatment that doesn't work in most cases. And so I don't know if I would be advocating so strongly for treatment in prison as what I advocate, and that is that we decrease the number of people in prison. That's what I advocate a lot more strongly. So treatment technically is available, but it's not very good.
Juste peut-être une info, Michel. En ce moment, il y a quand même ici, en France, qui était un des pays européens les plus accrochés à la guerre à la drogue, et il y a un certain nombre d'autres hommes politiques, une conférence du consensus, aujourd'hui et demain, sur l'activation de la politique de réduction des risques, qui est quand même fondée sur le fait qu'il faut oublier la guerre à la drogue et mettre en avant les questions de santé publique et des droits de l'homme, qui est repris maintenant par des agences, y compris l'agence onusienne de la répression des drogues et du crime organisé. Donc voilà, juste cette info que je voulais rappeler, c'est là, pendant ces deux jours, le modèle sioniste va quand même être mis pas mal de côté.
Alors c'est parfait.
Il y a notre ami Anne Coppel qui fait la... Voilà.
Alors justement, ça permet de donner le mot de la fin. Enfin, je pense qu'on va le partager. Parce que là-dessus, je pense qu'on a la même vision de la réduction des risques. Une info aussi, cette journée sur la réduction des risques était dommage. C'était deux journées. La Mildeca, donc notre drogue tsar à nous, j'étais dans le comité d'organisation, elle nous a fait passer un petit mot expliquant qu'il fallait surtout pas que ce débat soit pris en otage, je cite, par les partisans de la légalisation. Bon. Donc, je dis ça, bon, en forme de moquerie, mais en même temps, c'est juste parce que cette question sanitaire, qui effectivement nous a permis d'abord de survivre, hein, quand même le dire, parce que
avant la réduction des risques, nous mourions. Donc la question était réglée, parce qu'au bout de quelques années, les toxicomanes mouraient. Donc maintenant, ils ne meurent moins, ils vieillissent. Maintenant, ça exclut très souvent, notamment dans sa version française, tous les aspects politiques et sociaux. Et notamment, j'ai le souvenir d'un article que j'ai lu où, Karl, tu faisais allusion aux déclarations du président Obama, récemment, qui s'est déclaré ouvertement en faveur d'une prise en charge sanitaire des usagers de drogue. Et voilà, je te passe la parole pour que tu puisses nous rappeler ce que tu as répondu à cette déclaration du président Obama.
Which
statement? The statement about Obama saying a drug user must be decriminalized.
I see. Mm-hmm. Yeah, so one of the things that has happened over the past two decades is that countries, people have grown tired of the war on drugs. Particularly, there are people in the medical community who have grown tired of the war on drugs, and they have grown tired of people being arrested for drugs. And so it is now fashionable to say that we should not incarcerate people. Instead, we should make sure people get treatment. That's a fashionable statement to make. President Obama made that statement recently. But it's a bullshit statement. When you think about this fact, 80 to 90% of the people who use these drugs, including me, 80 to 90% of the people who use drugs don't need treatment. They don't have a problem. So what are we talking about? If the vast majority of people don't need treatment, why are we saying that they should go to treatment when these people are responsible, tax-paying citizens? It doesn't make any sense, but to the public, it sounds like it's compassionate. But it's really ignorance masquerading as compassion.
Merci beaucoup.